Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Circuler sans attestation, c'est possible dès aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français, mais jusqu'à 20h dernier cara. Le point sur ces changements dans un instant, alors que les professionnels du monde de la culture se mobilisent partout en France aujourd'hui. Leurs établissements sont toujours fermés. Dans cette édition, les derniers mots de la défense au procès des attentats de janvier 2015. Fin de ce procès hier, verdict attendu demain après-midi. Nous vous détaillerons ensuite le plan de la Commission européenne pour mieux réguler les plateformes internet. Et puis nous irons en Russie. Après une enquête de médias de plusieurs pays, elle détaille cette enquête comment le FSB a bien empoisonné l'opposant russe Alexei Navalny. La deuxième phase du déconfinement débute donc aujourd'hui, mardi 15 décembre. Plus de liberté de circulation tout en préservant les gestes barrières. Qu'est-ce qui change exactement, Diane Berger ?
Tout d'abord, c'est la fin du régime des attestations. Elles ne seront plus nécessaires pour se promener, se rendre au travail ou faire des achats. Il devient donc de fait possible de changer de région ou de retrouver ses proches, mais en journée seulement. En effet, le couvre-feu est de retour, cette fois à partir de 20h sur toute la France et jusqu'à 6h du matin. Les seuls déplacements autorisés, ce sont les trajets pour se rendre ou revenir de son travail, ceux pour motif de santé, pour motif familial impérieux, ou pour participer à des missions d'intérêt général, les maraudes par exemple, et enfin pour promener son animal de compagnie. Passé 20h, impossible donc de sortir prendre l'air, d'aller courir, de faire des achats ou de se rendre à un dîner. Une seule exception, le 24 décembre, pour le réveillon de Noël, le couvre-feu sera en vigueur en revanche au nouvel an. Et les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle, les musées, eux vont rester fermés. Il y a 3 semaines, Emmanuel Macron avait évoqué leur possible réouverture, mais c'était à la condition que le nombre de cas positifs chaque jour passe sous la barre des 5000, un objectif qui n'a pas été atteint.
Car hier, si les autorités recensaient un peu plus de 3000 nouveaux cas de Covid-19, bien en dessous de ces derniers jours, rappelons qu'il y a toujours moins de tests le week-end et donc potentiellement plus de cas dans les jours à venir. Les tests, justement, le conseil scientifique les conseille avant les fêtes pour pouvoir les passer en famille. Il évoque également un auto-confinement pendant une semaine avant les soirées de réveillon. C'est à cause d'un confinement forcé que le monde de la culture se mobilise aujourd'hui et se déconfine. Du moins dans la rue. Manifestations annoncées à Nantes, Lyon ou Marseille, à Paris également. Une douzaine de rassemblements au total sont prévus et organisés par la CGT Spectacle. Les professionnels protestent toujours contre la fermeture des lieux de spectacle, au moins jusqu'au 7 janvier. Parmi eux, il y a Nicolas Dubourg. Il est directeur du théâtre La Vignette à Montpellier et président du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Le 7 janvier, dit-il, c'est trop loin.
C'est interminable. Et puis encore une fois, je crois que la difficulté, c'est cette espèce d'incertitude. C'est-à-dire que là, on était à 3 jours d'une annonce. On sent que ça commence à se tendre. Et puis d'un coup, on nous dit « c'est trop tard, ce sera plus tard ». Et puis on nous dit que le 7 janvier qui est annoncé n'est pas une date de réouverture, mais une date de revoyure. C'est le terme maintenant maudit, la revoyure, on sait tous ce que ça veut dire. Ça veut dire que le 7 janvier, on nous dira que c'est pas le 7 janvier, mais que ce sera certainement plus tard. Donc c'est vraiment un découragement. Il faut imaginer qu'il y a des personnes aujourd'hui qui avaient travaillé depuis 3 semaines pour revendre des billets, contacter les spectateurs, leur dire voilà comment ça va se passer. Et là, patatras, il faut rappeler tout le monde, tout annuler pour la 3e fois la même année. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le découragement que ça fait par rapport au travail, au sens même que cela donne de son propre travail. Peut-être que la 1ère fois, ça passe, la 2e fois, c'est plus dur. Au bout de la 3e fois, il y a vraiment une difficulté psychologique énorme à remettre des gens au travail dans des conditions d'incertitude. Ça, c'est pas possible que ça dure. On ne minimise pas la crise, on ne minimise pas la dangerosité du virus. Ce qu'on dit, c'est qu'on a travaillé à des protocoles extrêmement précis. Donc il faut juste les mettre en œuvre et nous laisser travailler.
Nicolas Dubourg au micro d'Anne Lamotte de France Culture. Anne Lamotte que nous retrouverons pour le journal de midi et demi. Aujourd'hui, reportage dans la manifestation parisienne et discussion avec les participants. Un référendum pour inscrire la lutte pour le climat dans la Constitution française. Emmanuel Macron l'a annoncé hier lors de sa rencontre avec la Convention citoyenne pour le climat. Le président de la République donnera le choix aux Français, mais il faudra pour cela que l'idée de la réforme constitutionnelle soit adoptée adoptée par le Parlement. Verbatim de ce qu'a dit le chef de l'État hier et réaction des écologistes et de l'opposition dans le journal de 7h dans moins d'une demi-heure. Car certains, sachez-le, y voient déjà une manœuvre politique trop facile à un peu plus d'un an de la présidentielle. La Cour d'assises spéciale de Paris s'est donnée 2 jours pour délibérer dans le procès des attentats de janvier 2015. Hier, la parole était donnée aux dernières plaidoiries, aux derniers accusés présents, 11 accusés présents depuis 3 semaines. Ils comparaissaient libres pour la plupart, répétant hier encore leur compassion à l'égard des victimes et surtout leur innocence. Verdict donc demain après-midi. Dans les rangs de la défense, l'avocate Margot Pouliez redoute qu'il ne soit dominé ce verdict par la peur.
Je crains que la justice se trompe et l'association malfaiteur terroriste donne le moyen à la justice de se tromper parce que cette infraction est mal définie. Et je crois que par la peur, je crois que par le chagrin, on peut s'éloigner rapidement des faits qui sont reprochés aux accusés. Je pense que le risque, c'est de chercher à rendre un délibéré qui soit exemplaire. Et je me méfie beaucoup de l'exemplarité parce que ça signifie qu'on cherche à donner une réponse à l'opinion publique. Et l'opinion publique est terrifiée, l'opinion publique en peut plus de l'islamisme, mais on peut plus des attentats. Donc quand on juge des gens qui sont renvoyés pour des attentats, forcément le risque c'est qu'ils prennent pour d'autres. C'est très difficile de garder de la clairvoyance pour juger de manière sereine. Dans ces dossiers-là, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour juger de manière sereine et rationnelle en réalité. Avoir suffisamment la tête froide pour ne regarder que le dossier, pour se concentrer sur les hommes que l'on juge, et puis pour dire que, en définitive, finalement, peut-être que nous n'aurons pas les personnes qui ont revendu les armes aux frères Kouachi.
Des propos recueillis hier par Florence Thurme pour France Culture à la fin donc de ce procès. Verdict attendu demain. Bruxelles s'attaque aux géants du numérique. Télétravail, visioconférence, achats sur Internet, cours en ligne. La crise sanitaire a encore renforcé la place du numérique dans nos vies quotidiennes et la détermination de la Commission à mieux réguler ses plateformes. On pense à Google, Amazon ou Facebook. Aujourd'hui donc, la Commission européenne présente un arsenal législatif pour imposer à ces plateformes des obligations de contrôle des contenus, Angélique Bois.
Si les lois actuelles suffisaient pour freiner les appétits des géants de l'Internet, cela se saurait, souligne un diplomate. La Commission veut donc repeindre sa législation de la cave au grenier. Objectif affiché, mieux encadrer les plus grosses plateformes et permettre à de plus petites, européennes bien sûr, de se faire de la place. En imposant d'abord plus de transparence sur les algorithmes qu'elles utilisent pour prospérer et en interdisant certaines pratiques bien rodées. Amazon, qui vend par exemple des produits fabriqués par nos PME, qui siphonne ensuite les données des acheteurs, leurs préférences, leurs critiques, pour pousser ses propres produits. La Commission veut aussi faire un gros ménage sur les sites en ligne où prospère la contrefaçon et imposer plus de réactivité aux plateformes pour lutter contre les contenus illicites comme la haine en ligne. Le texte prévoit de les contraindre à recruter un minimum de modérateurs qui maîtrisent toutes les langues européennes. Chez Facebook, dans certains pays de l'Est, ils ne sont qu'une poignée. Un vaste catalogue associé à des sanctions beaucoup plus dissuasives qu'aujourd'hui. Chez les GAFA, l'argent coule à flot, les milliards d'amendes pour pratiques anticoncurrentielles imposées parfois après des années d'enquête ne suffisent plus. La Commission veut donc taper beaucoup plus fort. Selon plusieurs sources, le montant des amendes pourra atteindre 10% du chiffre d'affaires et en cas de manquements graves et répétés, les entreprises concernées pourraient être en partie démantelées. On interdirait par exemple à Google sur le marché européen de coupler son moteur de recherche avec ses propres intérêts, une mesure bazooka que les lobbies ne manqueront pas d'attaquer.
Angélique Bois pour France Culture. Il appelle les États-Unis à tourner la page. Joe Biden occupera bel et bien la Maison Blanche le 20 janvier prochain. Sa victoire à la présidentielle est confirmée depuis hier soir par le collège électoral dans le pays. Penchons-nous à présent sur une enquête journalistique, enquête conjointe réalisée par le site d'information Bellingcat, par CNN, le magazine allemand Der Spiegel et le site russe The Insider. Cette enquête impute directement l'empoisonnement d'Alexei Navalny au FSB. Ces médias auraient identifié les agents qui suivent les déplacements de l'opposant russe depuis 3 ans, Jean-Didier Revoy.
En décryptant des milliers de données téléphoniques et en les couplant avec des listes de passagers, les enquêteurs sont parvenus à identifier 8 agents du FSB, le successeur du KGB, qui seraient impliqués dans la tentative d'empoisonnement d'Alexei Navalny. De la même manière, il conclut que l'opposant est sous une surveillance des services russes quasi permanente depuis 2017. Des informations que les plus hautes sphères de l'État russe n'ont pour l'instant pas commentées, mais qui ont interpellé certains responsables politiques de second rang. C'est le cas d'un député du parti libéral Yabloko, qui siège au Parlement de la ville de Saint-Pétersbourg. Il a annoncé qu'avec un groupe de députés, ils allaient, mercredi, saisir la commission d'enquête russe pour tentative de meurtre sur une personnalité publique. Reste à savoir maintenant quelle sera la marge de manœuvre de cette commission. Vendredi dernier, interpellé par le Conseil russe des droits de l'homme sur le cas d'Alexeï Navalny, Vladimir Poutine avait souligné qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments dans ce dossier pour ouvrir une enquête pénale.
Et sachez que Camille Manière reviendra sur cette enquête plus longuement dans sa revue de presse internationale à 7h35. À 6h40, c'est le temps pour moi de vous donner quelques mots de météo. Encore de la pluie fine ce mardi sur l'ensemble du pays, mais des températures douces entre 5 et 13 degrés du nord au sud. Et à 6h.